La moustache.
Château de Sol, lundi 30 juillet 1883. Ma chère Lucie, rien de nouveau. Nous vivons dans le salon en regardant tomber la pluie. On ne peut guère sortir par ces temps affreux, alors nous jouons la comédie. Qu'elles sont bêtes, oh ma chérie, les pièces de salon du répertoire actuel. Tout y est forcé, grossier, lourd. Les plaisanteries portent à la façon des boulets de canon en cassant tout. Pas d'esprit, pas de naturel, pas de bonne humeur, aucune élégance. Ces hommes de lettres vraiment ne savent rien du monde. Ils ignorent tout à fait comment on pense et comment on parle chez nous. Je leur permettrai parfaitement de mépriser nos usages, nos conventions et nos manières, mais je ne leur permets point de ne les pas connaître. Pour être fin, ils font des jeux de mots qui seraient bons à dérider une caserne. Pour être gais, ils nous servent de l'esprit qu'ils ont dû cueillir sur les hauteurs du boulevard extérieur, dans ces brasseries dites d'artistes, où on répète depuis 50 ans les mêmes paradoxes d'étudiants. Enfin, nous jouons la comédie. Comme nous ne sommes que deux femmes, mon mari remplit les rôles de soubrette, et pour cela, il s'est rasé. Tu ne te figures pas, ma chère Lucie, comme ça le change. Je ne le reconnais plus, ni le jour ni la nuit. S'il ne se laissait pas repousser immédiatement sa moustache, je crois que je lui deviendrais infidèle, tant il me déplaît ainsi. Vraiment, un homme sans moustache n'est plus un homme. Je n'aime pas beaucoup la barbe, elle donne presque toujours l'air négligé. Mais la moustache, oh, la moustache, est indispensable à une physionomie virile. Non, jamais tu ne pourrais imaginer comme cette petite brosse de poils sur la lèvre est utile à l'œil et aux relations entre époux. Il m'est venu sur cette matière un tas de réflexions que je n'ose guère t'écrire. Je te les dirai volontiers, tout bas. Mais les mots sont si difficiles à trouver pour exprimer certaines choses, et certains d'entre eux, qu'on ne peut guère remplacer, ont sur le papier une si vilaine figure que je ne peux les tracer. Et puis le sujet est si difficile, si délicat, si scabreux qu'il faudrait une science infinie pour l'aborder sans danger. Enfin, tant pis si tu ne me comprends pas, et puis ma chère, tâche un peu de lire entre les lignes. Oui, quand mon mari m'est arrivé rasé, j'ai compris d'abord que je n'aurais jamais de faiblesse pour un cabotin ni pour un prédicateur, fût-il le père Didon, le plus séduisant de tous. Puis quand je me suis trouvée plus tard seule avec lui, mon mari, ce fut bien pis. Oh, ma chère Lucie, ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût, aucun, aucun. Cela n'a plus ce charme, ce moelleux et ce poivre, oui, ce poivre du vrai baiser. La moustache en est le piment. Figure-toi qu'on t'applique sur la lèvre un parchemin sec ou humide. Voilà la caresse de l'homme rasé. Elle n'en vaut plus la peine, assurément. D'où vient donc la séduction de la moustache, me diras-tu? Le sais-je. D'abord, elle chatouille d'une façon délicieuse. On la sent avant la bouche et elle vous fait passer dans tout le corps, jusqu'au bout des pieds, un frisson charmant. C'est elle qui caresse, qui fait frémir et tressaillir la peau, qui donne aux nerfs cette vibration exquise qui fait pousser ce petit « Ah !» comme si on avait grand froid. Et sur le cou, oui, as-tu jamais senti une moustache sur ton cou? Cela vous grise et vous crispe, vous descend dans le dos, vous court au bout des doigts. On se tord, on secoue ses épaules, on renverse la tête, on voudrait fuir et rester, c'est adorable et irritant. Mais que c'est bon! Et puis encore, vraiment, je n'ose plus. Un mari qui vous aime, mais là, tout à fait, c'est trouver un tas de petits coins où cacher des baisers, des petits coins dont on ne s'aviserait guère toute seule. Eh bien, sans moustache, ces baisers-là perdent aussi beaucoup de leur goût, sans compter qu'ils deviennent presque inconvenants. Explique cela comme tu pourras. Quant à moi, voici la raison que j'en ai trouvée. Une lèvre sans moustache est nue comme un corps sans vêtements, et il faut toujours des vêtements, très peu si tu veux, mais il en faut. Le Créateur, je n'ose point écrire un autre mot en parlant de ces choses. Le Créateur a eu soin de voiler ainsi tous les abris de notre chair où devrait se cacher l'amour. Une bouche rasée me paraît ressembler à un bois abattu autour de quelques fontaines où l'on allait boire et dormir. Cela me rappelle une phrase d'un homme politique qui me trotte depuis 3 mois dans la cervelle. Mon mari, qui suit les journaux, m'a lu un soir un bien singulier discours de notre ministre de l'Agriculture, qui s'appelait alors Monsieur Méline. A-t-il été remplacé par quelque autre? Je l'ignore. Je n'écoutais pas, mais ce nom, Méline, m'a frappé. Il m'a rappelé, je ne sais trop pourquoi, les scènes de la vie de Bohème. J'ai cru qu'il s'agissait d'une grisette. Voilà comment quelques bribes de ce morceau me sont entrées dans la tête. Donc, Monsieur Méline faisait aux habitants d'Amiens, je crois, cette déclaration dont je cherchais jusqu'ici le sens. « Il n'y a pas de patriotisme sans agriculture !» Eh bien, ce sens, je l'ai trouvé tout à l'heure, et je te déclare à mon tour qu'il n'y a pas d'amour sans moustache. Quand on le lit comme ça, ça semble drôle, n'est-ce pas? Il n'y a point d'amour sans moustache. Il n'y a point de patriotisme sans agriculture, affirmait M. Méline, et il avait raison, ce ministre, je le pénètre à présent. À un tout autre point de vue, la moustache est essentielle. Elle détermine la physionomie. Elle vous donne l'air doux, tendre, violent, croque-mitaine, bambocheur, entreprenant. L'homme barbu, vraiment barbu, celui qui porte tout son poil. Le vilain mot. Sur les joues, n'a jamais de finesse dans le visage, les traits étant cachés. Et la forme de la mâchoire et du menton dit bien des choses à qui sait voir. L'homme à moustache garde son allure propre et sa finesse en même temps. Et que d'aspects variés elles ont, ces moustaches. Tantôt, elles sont retournées, frisées, coquettes. Celles-là semblent aimer les femmes avant tout. Tantôt, elles sont pointues, aiguës comme des aiguilles, menaçantes. Celles-là préfèrent le vin, les chevaux et les batailles. Tantôt, elles sont énormes, tombantes, effroyables. Ces grosses-là dissimulent généralement un caractère excellent, une bonté qui touche à la faiblesse et une douceur qui confine à la timidité. Et puis ce que j'adore d'abord dans la moustache, c'est qu'elle est française, bien française. Elle nous vient de nos pères les Gaulois et elle est demeurée le signe de notre caractère national, enfin. Elle est hableuse, galante et brave. Elle se mouille gentiment au vin et sait rire avec élégance, tandis que les larges mâchoires barbues sont lourdes en tout ce qu'elles font. Tiens, je me rappelle une chose qui m'a fait pleurer toutes mes larmes et qui m'a fait aussi, je m'en aperçois à présent, aimer les moustaches sur les lèvres des hommes. C'était pendant la guerre, chez papa. J'étais jeune fille alors. Un jour, on se battit près du château. J'avais entendu depuis le matin le canon et la fusillade, et le soir, un colonel allemand entra chez nous et s'y installa. Puis il partit le lendemain. On vint prévenir père qu'il y avait beaucoup de morts dans les champs. Il les fit ramasser et apporter chez nous pour les enterrer ensemble. On les couchait tout le long de la grande avenue de sapins, des deux côtés, à mesure qu'on les apportait. Et comme ils commençaient à sentir mauvais, on leur jetait de la terre sur le corps en attendant qu'on eût creusé la grande fosse. De la sorte, on n'apercevait plus que leur tête qui semblait sortir du sol, jaune comme lui, avec leurs yeux fermés. Je voulus les voir, mais quand j'aperçus ces deux grandes lignes de figures affreuses, je crus que j'allais me trouver mal, puis je me mis à les examiner une à une, cherchant à deviner ce qu'avaient été ces hommes. Les uniformes étaient ensevelis, cachés sous la terre. Et pourtant, tout à coup, oui ma chérie, tout à coup je reconnus les Français à leurs moustaches. Quelques-uns s'étaient rasés le jour même du combat, comme s'ils eussent voulu être coquets jusqu'au dernier moment. Leur barbe, cependant, avait un peu repoussé, car tu sais qu'elle pousse encore après la mort. D'autres semblaient l'avoir de 8 jours, mais tous enfin portaient la moustache française, bien distincte, la fière moustache qui semblait dire « Ne me confonds pas avec mon ami barbu, petite, je suis un frère. » Et j'ai pleuré. Oh, j'ai pleuré bien plus que si je ne les avais pas reconnus ainsi, ces pauvres morts. J'ai eu tort de te conter cela. Me voici triste maintenant et incapable de bavarder plus longtemps. Allons, adieu, ma chère Lucie. Je t'embrasse de tout mon cœur. Vive la moustache. Jeanne.